VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En RCA, investiture du président Faustin Archange Touadéra aujourd'hui à Bangui. Le nouveau chef de l'État centrafricain a prêté serment dans le stade de 20 000 places de la capitale sécurisée par les casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU. Il s'est engagé à remplir sa tâche sans aucune considération ethnique et à ne jamais exercer son pouvoir à des fins personnelles. Faustin Archange Touadéra a ensuite écouté le président de la Cour constitutionnelle, Zacharine Douba, s'adresser à lui. Vous incarnez désormais la nation tout entière et ses valeurs. Soyez fidèle au serment que vous avez prononcé. Vous serez le président de la réconciliation nationale, a souligné Zacharine Douba, exhortant ses compatriotes à faire taire leur rancœur et à panser les plaies du pays. Deux chefs d'État étaient présents à la cérémonie, le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, la France confirme aujourd'hui qu'elle mettra fin cette année à l'opération Sangaris en RCA. Paris estime que sa mission de ramener la sécurité en territoire centrafricain est accomplie, après 3 ans de désordre sanglant dans le pays. Faustin Archange Touadéra est donc le nouveau président de la Centrafrique. Son pays se remet à peine de 3 années de violence meurtrière. Sur les nombreux défis qui attendent le tout nouveau président, Idriss Fall a joué Mathurin Momain, directeur du journal Le Confident à Bangui.
Touadéra arrive à un moment où l'État n'existe que de nom. Tout est priorité présentement. Il y a d'abord la sécurité, la réhabilitation de l'armée nationale, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement, tout ceci nécessite la mobilisation de la communauté internationale parce que la RCA a une économie qui est dans un état comateux. Ensuite, la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire déployer l'administration dans tout le pays. Les préfectures, en majeure partie, sont sous contrôle des groupes armés qui contrôlent tout. Les recettes de l'État, la collecte de café et des produits de ressources naturelles. Et ensuite, il y a l'éternel problème d'énergie. On ne peut pas parler création d'entreprise ou développement quand la fourniture de l'énergie se fait d'une manière irrégulière.
Vous pensez que Touadéra a les moyens sans armée de désarmer les groupes qui contrôlent des pans entiers du pays?
C'est une question de volonté politique. Si la RCA n'était pas sous embargo, je crois que nos forces de sécurité et de défense, nous avons la capacité.
Les FACA ont déjà montré leurs limites face à l'avancée de l'ex-Séléka dans Bangui, non?
Mais laissez-moi vous dire, est-ce que quelqu'un qui est sans armes peut se présenter devant celui qui a des armes? Voilà la situation dans laquelle Bozizé a laissé l'armée. L'armée était démunie. Nos soldats ont fait des études dans les mêmes écoles que les pays, autres pays francophones ont fait. Vous trouvez normal qu'ils ne puissent pas défendre leur territoire s'ils étaient dans les conditions? Non, il y avait des armes, mais Bozizé avait peur de perdre le pouvoir. Il n'a pas remis ça aux gens et il ne les a pas mis dans les conditions idéales. Il a privilégié ses parents, il a privilégié les rebelles. C'est ça la situation de la République centrafricaine.
Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus gros danger auquel le président devra faire face?
Le plus gros danger, les membres de son groupe ethnique, ceux qui sont alliés à lui, et son cabinet, puissent émettre un seul et même son. Tous ceux qui gravitent tout autour doivent avoir un seul objectif, sauver la République centrafricaine. Et non, je suis parent, je dois être privilégié par rapport à l'autre. Mais s'il s'agissait seulement des parents, il est issu d'une ethnie minoritaire. Il ne serait pas ici à ce niveau. Être élu avec plus de 102%, ça c'est déjà la victoire du peuple.
Mathurin Momain, directeur du journal Le Confident à Bangui en RCA. En RDC voisine, Moïse Katumbi hausse le ton et qualifie de simulacre d'élection le vote des gouverneurs de nouvelles provinces remporté dans sa quasi-totalité le week-end dernier par les candidat du pouvoir. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, passé à l'opposition, est pressenti candidat à la prochaine présidentielle qui semble de plus en plus s'éloigner, Eddie Sango.
Ce simulacre d'élection démocratique ne doit pas nous détourner de la priorité absolue, à savoir la tenue d'une élection présidentielle crédible en novembre 2016, a déclaré M. Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur rappelle que le président Joseph Kabila, qui termine son deuxième mandat, ne devra pas se représenter à la prochaine présidentielle. M. Katumbi a fait la déclaration alors que le G7, groupe d'anciens leaders de la majorité au pouvoir, passé comme lui à l'opposition et auquel il s'est rapproché, promet de désigner ce mercredi son candidat pour les scrutins présidentiels. Et c'est M. Katumbi qui est pressenti. Ce dernier soutient que le 19 décembre 2016, M. Kabila, au pouvoir depuis 2001, ne sera plus le président des Congolais et devrait donc organiser sa sortie de manière démocratique et pacifique. Pour les porte-parole du gouvernement Lambert Mende, M. Katumbi est un mauvais perdant. Il devrait plutôt articuler ses griefs devant les instances des recours, a affirmé M. Mende.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, la police a relâché, après les avoir interpellés hier, une soixantaine d'opposants camerounais rassemblés à Yaoundé pour dénoncer toute tentative clandestine de modification constitutionnelle de la part du pouvoir pour avancer l'élection présidentielle prévue en 2018. Pour le film des événements de ce mardi, John Lindon a joint Yaoundé Christophe Bobby Okono, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés.
La police, très tôt, a occupé le siège du MRC, le parti du professeur Maurice Kamto, qui devrait abriter cette conférence-là, parce que l'autorité administrative estime que c'est une réunion publique qui devrait être déclarée et qui ne l'a pas été. Donc c'était une façon d'interdire la réunion. Et comme les personnes sont arrivées et ne pouvaient pas avoir accès aux locaux du parti en question, il y a eu un attroupement sur la voie publique. Et après la déclaration qui a été faite sur la voie publique par les partis politiques concernés et les échanges avec les journalistes, la police a sauté sur les personnes présentes. Les personnes présentes ont été arrosées au canon à eau et toutes les personnes qui ont été interpellées ont été conduites au commissariat central des renseignements généraux et elles ont été progressivement auditionnées et libérées progressivement.
Christophe Bobby Okono, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, en juin à Yaoundé. Au Burundi, le procureur général de la République a appelé les familles de victimes d'exécutions extrajudiciaires présumées, qui viennent de saisir la Cour pénale internationale CPI et aussi l'ONU, à plutôt déposer leur plainte auprès de ses services, car les demandeurs seraient en train de se faire manipuler, selon lui. Valentin Bagori-Konda réagissait à la saisine de la CPI du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme vendredi dernier par un collectif d'avocats agissant au nom de 60 familles, dont certains membres ont été, selon elle, victimes d'exécutions. Exécution extrajudiciaire. Bujumbura a nié jusqu'ici les cas d'exécution extrajudiciaire dénoncés par plusieurs organisations des droits de l'homme, accusant plutôt une partie de son opposition désormais armée d'être à l'origine de ces exactions. La fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest ne constitue plus une urgence sanitaire internationale. C'est ce qu'a fait savoir l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, l'OMS met en garde contre le risque que les survivants de cette maladie infectent leurs partenaires sexuels. Des précisions avec Félix Yepassi Zembrou.
L'annonce de l'OMS intervient alors que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont connu une résurgence du virus Ebola après avoir chacun déclaré la fin de l'épidémie. De nouveaux cas ont été détectés, souvent quelques heures seulement après la fin officielle de l'épidémie. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest avait fait plus de 11 000 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. La mesure prise mardi par l'OMS met fin à la déclaration d'urgence sanitaire internationale qui avait suscité une vive controverse. Une enquête de l'agence Associated Press a révélé que l'agence onusienne avait retardé cette déclaration pour des raisons économiques, politiques et religieuses. Alors que l'OMS tourne la page de l'Ebola, elle se trouve maintenant confrontée au virus Zika qui suscite une vive inquiétude dans les Amériques.
En Libye, Fayez El-Sirraj, chef du gouvernement libyen d'Union nationale parrainé par l'ONU, est arrivé aujourd'hui à Tripoli avec 6 membres de son cabinet. Il est venu de Tunis par la mer. Les autorités rivales qui contrôlent la capitale libyenne ne souhaitaient pas sa venue. Crise migratoire, une patrouille des gardes-côtes libyens a secouru 152 migrants en route vers l'Europe par la Méditerranée. Depuis dimanche, quelques 750 migrants ont été sauvés en mer par la marine libyenne. Le conflit en Syrie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré aujourd'hui à Genève que la crise des réfugiés syriens exigeait une hausse exponentielle de la solidarité mondiale, propos tenu à l'ouverture d'une conférence destinée à trouver des pays d'accueil. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.